Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Je suis heureux de recevoir de nouveau au micro de Storia Voce, Hugues Dossi. Hugues Dossi, bonjour.
Bonjour.
Je vous reçois parce que vous êtes à la fois spécialiste de la Renaissance. Nous avons déjà enregistré plusieurs émissions ensemble. Vous devenez un habitué de ce micro. Et vous êtes aussi un grand spécialiste du protestantisme, donc du XVIe siècle. D'où cette émission que j'ai souhaité consacrer aux guerres de religion. Qu'est-ce qu'on appelle, Hugues Dossi, les guerres de religion ?
Les guerres de religion sont une série de 8 conflits qui ont ensanglanté le royaume de France dans la seconde moitié du XVIe siècle, de 1562 à 1598. Ce sont des guerres civiles, parce qu'elles opposent des Français à des Français, et ce sont des guerres civiles qui opposent des catholiques à des protestants, on va dire pour schématiquement des catholiques intransigeants à ce qu'on appelle le parti huguenot, c'est-à-dire l'organisme politique et militaire qui a été créé par les réformés français pour assurer leur défense. Et puis, il y a un troisième protagoniste qui intervient de manière variable dans ce jeu, c'est la monarchie française.
Alors, vous êtes un grand spécialiste, hein, je le disais, du protestantisme. Vous avez écrit notamment le Parti huguenot, chronique d'une désillusion, 1557-1572, un livre paru à Genève chez l'éditeur Droz, un livre qui a reçu le prix Chateaubriand en 2014. Quels ont été les grands protagonistes de cette guerre civile ?
Alors, les protagonistes principaux de cette guerre civile sont les membres de la noblesse catholique et les membres de la noblesse huguenote. Hein, on peut dire que c'est un affrontement avant tout nobiliaire. Vous avez la grande noblesse catholique radicale, notamment par exemple les membres de la famille de Guise, le duc de Guise, son frère, le cardinal de Lorraine, puis la deuxième génération des Guise, le second duc de Guise, Henri de Guise, dit le Balafré, et son frère, le cardinal de Guise, mais aussi le connétable de Montmorency, qui était un catholique assez radical, et bien d'autres. Et puis en face, vous avez le parti huguenot, à la tête duquel se trouve une partie de l'élite nobiliaire du royaume.
Dans quelles circonstances la première guerre s'est-elle déclenchée ?
Alors, pour comprendre le déclenchement des guerres de religion, il faut remonter un peu en amont. Il faut remonter autour de l'année 1555, une année lors de laquelle les églises réformées de France, qui vivaient dans la clandestinité jusqu'à présent, décident de sortir de l'ombre et à vivre au grand jour. À l'appel de Calvin d'ailleurs. Calvin pensait que c'était le moment d'apparaître au grand jour pour convertir le royaume de France en son entier. C'est un peu une utopie calvinienne que cette conversion du royaume de France, du roi et du royaume. Et donc les églises éclosent, apparaissent au grand jour, et quelques années plus tard, c'est la dimension nobiliaire de la réforme qui apparaît au grand jour. Et cette éclosion brutale affole la monarchie, qui voit tout d'un coup apparaître l'hérésie de manière absolument évidente, et après des tentatives de répression plus ou moins abouties, Catherine de Médicis, à partir du règne de son fils Charles IX, exerce la régence, Catherine de Médicis décide de mettre en place une politique de conciliation. On essayait d'établir ce qu'on appelait la concorde religieuse. La concorde, c'est pas une simple coexistence. La concorde, ça supposait que chaque confession fasse un pas vers l'autre. Mais évidemment, les catholiques pensaient que les réformés feraient un très grand pas, puis eux feraient un tout petit pas. Donc c'était ce qui s'est passé au colloque de Poissy, notamment en 1561. Ça a échoué. Et pour éviter la guerre, Catherine de Médicis, en 1562, a fait signer à son fils Charles IX un édit qu'on appelle l'édit de janvier, qui instaurait une coexistence confessionnelle entre catholiques et protestants dans le royaume de France et qui accordait aux protestants français une très large liberté de culte. Or, cette concession a été jugée intolérable par la noblesse catholique intransigeante et il y a eu un incident qui n'était pas prémédité mais qui a mis le feu aux poudres. C'est ce qu'on appelle le massacre de Vassy, le 1er mars 1562, qui est en fait le massacre de protestants français qui célébraient leur culte dans une grange à Vassy. Et le duc de Guise passait par Vassy en venant de Lorraine pour se rendre à la cour de France. Il a surpris ce culte qui ne respectait pas les termes de l'édit de janvier puisqu'il se déroulait à l'intérieur des murs de la ville. Et il y a eu une échauffourée qui s'est déclenchée et à ce moment-là, l'édit a été brisé et c'est le début des guerres de religion.
Pourquoi ce conflit a duré tant de temps? 36 ans, c'est énorme en soi. C'est plus qu'une génération.
Oui, et quand on regarde les données brutes, on peut s'étonner. On a une immense majorité catholique. Le Royaume de France, c'est au moment où la réforme atteint sa pleine expansion, c'est 90% de catholiques et 10% de protestants. On a le roi qui combat pour la foi catholique d'une manière générale. Normalement, en un rien de temps, les Huguenots auraient dû être écrasés. Et ça n'a pas été le cas, ils ont résisté. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'ils avaient à leur tête des personnages très puissants. Ce sont des princes du sang, notamment, puisque ce sont des membres de la branche des Bourbons, qui est une branche de la famille royale. Le prince Louis de Condé, par exemple, son fils, le prince Henri de Condé, Henri de Navarre, c'est Henri de Bourbon, roi de Navarre, le futur Henri IV, sont des personnages surpuissants qui prennent la tête du parti Huguenot. Ils ont une puissance politique, mais aussi une puissance militaire. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres personnages très éminents, comme l'amiral Gaspard de Coligny, par exemple, amiral de France, son frère François Dandelot, colonel général de l'infanterie française. Bref, des personnages qui confèrent au mouvement Huguenot une puissance militaire telle qu'ils sont quasiment inexpugnable, et c'est la raison pour laquelle on a connu une alternance de guerre et de paix pendant 36 ans.
Est-ce que c'est un phénomène franco-français ou au contraire on observe des situations un peu analogues à l'étranger?
Alors, les guerres de religion françaises se produisent dans le contexte d'une bipolarisation de l'Europe. Une bipolarisation religieuse, puisqu'on a une partition de l'Europe, en quelque sorte de l'Europe occidentale, entre des États qui sont passés à la réforme, réforme luthérienne notamment, un petit peu calviniste, et des États qui sont restés catholiques, comme la France et l'Espagne. Et dans cette perspective, le destin d'un royaume comme la France, qui est une des plus grandes puissances européennes, est crucial. Si jamais la réforme triomphait en France, elle ferait basculer l'équilibre européen. Elle le ferait basculer du côté protestants. Et si jamais la réforme est écrasée en France, eh bien elle donnera les armes aux catholiques pour essayer d'éradiquer la réforme en Europe. C'est la raison pour laquelle les guerres de religion françaises n'ont pas laissé indifférents les catholiques et les protestants européens, et que les catholiques intransigeants français ont pu compter sur l'appui des puissances catholiques européennes par moment, par de l'argent, par de l'envoi de troupes. Le pape a même envoyé des troupes en France pendant les guerres de religion. Et puis, les protestants français ont bénéficié de l'appui des princes protestants européens, la reine d'Angleterre, Élisabeth d'Angleterre, mais aussi les princes protestants allemands. Et il y a d'importantes quantités de mercenaires, des reîtres et des lansquenets, qui sont entrés dans le royaume de France pour venir au secours des réformés. Et tout à l'heure, on se posait la question de savoir pourquoi les guerres avaient duré si longtemps. Eh bien, on peut dire que s'il n'y avait pas eu cet apport de troupes étrangères au service de la cause huguenote, sans doute que la résistance huguenote aurait été beaucoup plus difficile.
Donc, il y a une dimension, pardonnez-moi ce néologisme, ou cet anachronisme plutôt, pour l'époque, d'une sorte de géopolitique des guerres de religion qui s'étendent bien au-delà donc du territoire français.
C'est absolument ça. On peut considérer que les guerres de religion françaises sont l'expression française d'un conflit européen. La France est considérée comme l'un des théâtres clés de ce conflit. Et si on voulait prendre une expression plus contemporaine, on pourrait dire que les Huguenots, pour solliciter l'aide de leurs coreligionnaires européens, ont invoqué une sorte de théorie des dominos. C'est-à-dire que si jamais la France devient catholique, eh bien, peu à peu, les catholiques reprendront, les uns après les autres, le contrôle de tous les États qui ont basculé en faveur du protestantisme.
Alors, on sait que le fait religieux, même au temps médiévaux, est intimement lié au fait politique. Est-ce que c'est également le cas pour les guerres de religion? Là, on revient, j'allais dire, dans la politique intérieure française.
Alors, je crois qu'on peut dire, sans exagérer, qu'en fait, les guerres de religion sont un conflit politique. Ça peut paraître curieux, mais en réalité, certes, ce sont des catholiques et des protestants qui s'affrontent, mais d'emblée, les réformés français ont voulu politiser le conflit. Pourquoi? Tout simplement parce que l'un des grands arguments des catholiques était d'expliquer que, de manière naturelle, les hérétiques sont des séditieux. Ce sont des mauvais sujets du roi. Et à partir du moment où on était protestant, on était donc naturellement séditieux.
On sortait du corps, en quelque sorte, de la nation France.
Oui, parce qu'on n'avait pas la religion du roi, et par conséquent, on ne pouvait pas lui être fidèle. Il y avait une sorte d'incapacité, réputée incapacité, à être fidèle à un roi dont on ne suivait pas la religion. Il y avait d'ailleurs un édit de François Ier de 1540, l'édit de Fontainebleau, qui avait criminalisé l'hérésie sur le plan politique, en avait fait un crime de lèse-majesté, et qui avait associé hérésie et sédition. Et puis en 1560, un autre édit, par Charles IX, l'édit de Romorantin, avait décriminalisé l'hérésie, parce qu'on ne pouvait plus dire que des grands personnages comme le prince de Condé, l'amiral de Coligny, qui étaient des grands officiers du royaume et des princes du sang, étaient des mauvais sujets. Donc on avait décriminalisé l'hérésie. Mais dans l'esprit des hommes de l'époque, elle était restée un crime politique, un crime de lèse-majesté. Et donc les réformés ont voulu montrer que ce n'était pas vrai. Ils ont développé toute une pensée politique afin de le démontrer. Ils ont expliqué que eux sont les vrais bons sujets du roi, alors que les catholiques étaient des mauvais sujets du roi, que eux voulaient défendre les lois et constitutions du royaume, alors que les catholiques intransigeants voulaient les subvertir. Ils ont expliqué qu'eux étaient des bons Français, alors que les têtes des catholiques intransigeants qui étaient les Guises étaient des Lorrains. Alors certes, les membres de la famille de Guise avaient obtenu des lettres de naturalité par François Ier, mais c'était des Français de fraîche date, et aux yeux de la noblesse séculaire française, c'était encore des étrangers. Ils ont développé toute une argumentation aussi pour montrer que le roi, même s'il prenait parti en apparence pour le camp catholique, en réalité étaient secrètement en leur faveur. Et comment l'ont-ils expliqué? Eh bien, ils ont développé ce qu'on appelle la théorie du roi prisonnier ou manipulé. Alors ici, on fait appel à ce qu'on appelle la théorie bicorporelle de la monarchie. On considère que le roi a deux corps. Il a un corps physique, comme tout le monde. Il a aussi un corps politique. Or, de ce corps politique, il n'est que la tête. Et les membres de ce corps politique, ce sont les États, les trois États, le clergé, la noblesse et le tiers État. Le roi, normalement, pour gouverner, doit gouverner avec son corps politique. C'est ce qu'on appelle le gouvernement par conseil. Or, lorsque le roi est, entre guillemets, sous l'emprise de mauvais conseillers, de favoris, il gouverne coupé de son corps politique. Et on considère qu'à ce moment-là, il n'est plus libre. On considère qu'il est prisonnier, prisonnier non pas physiquement, mais politiquement. Et le rôle des membres les plus éminents de ce corps politique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de le libérer. De libérer le roi. Qui sont les membres les plus éminents du corps politique? Ce sont les princes du sang. Or, les princes du sang sont protestants. Et donc, le rôle du prince de Condé, lorsqu'il y a une captivité politique du roi, c'est de le libérer. Donc, lorsque les protestants français prennent les armes pendant les guerres de religion, ils ne prennent pas les armes contre le roi, ils les prennent pour lui, pour le libérer de l'influence des catholiques intransigeants.
Hugues Decines, nous avons enregistré ensemble toute une série d'émissions sur la Renaissance et je voudrais faire un lien, qui est peut-être un lien hasardeux, vous allez me le dire, entre cette époque de la Renaissance et les guerres de religion. On vivait dans un monde humaniste, qui se voulait humaniste, une période d'innovation, sûre d'elle-même, avec une élite qui ne cesse de développer des nouvelles techniques, une nouvelle façon de penser, une nouvelle conception du monde. Et là, nous avons, avec les guerre de religion, une sorte de tragique de l'histoire qui revient. Les deux idées, à la fois l'humanisme et cette époque des guerres de religion, ce sont des idées incompatibles ou il y a une forme de logique sur le plan des idées politiques entre les deux périodes?
Alors, il y a déjà une chronologie. Le plein épanouissement de l'humanisme en France, c'est plutôt le règne de François Ier et un peu le règne d'Henri II. Et en Europe, une vraie rupture, c'est la réforme. La réforme qui brise l'unité religieuse est une rupture aussi politique. On sait très bien que, à la suite de l'apparition du mouvement réformateur, les humanistes ont dû reconsidérer leur approche de l'Antiquité. Ils ont dû la reconsidérer tout simplement parce que on les a accusés, parce qu'ils avaient prôné un mouvement de retour aux sources, qui était celui aussi des réformateurs, qui revenait aux sources chrétiennes de la Bible. On les a accusés en quelque sorte d'avoir suscité la réforme. Or ici, on voit qu'en France, au moment du règne d'Henri II et du règne de ses enfants, on est complètement dans cette optique de rupture de l'unité qu'il faut restaurer et on a oublié un petit peu les idéaux humanistes qui restent l'apanage de quelques intellectuels minoritaires, mais qui ne concernent absolument pas tout le monde, même si à la cour des Valois étaient en vigueur les idéaux néoplatoniciens de l'harmonie, etc., qui ont d'ailleurs été à la source en partie de la volonté de Catherine de Médicis de maintenir l'unité du royaume. Donc il y a ici une ambivalence en quelque sorte, un tiraillement entre des idéaux qui ne sont pas tellement applicables à ce moment-là et une réalité qui est violente.
Mmh. Donc il y a bien un lien entre l'humanisme et l'apparition de la réforme.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre l'humanisme et l'apparition de la réforme ? C'est ce dont on a accusé les humanistes.
Mmh.
Ce qu'on peut dire, c'est que il y a un mouvement en quelque sorte de retour aux sources qui est commun entre les humanistes et les réformateurs. Après, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Là, c'est une question d'interprétation.
Comment ce long conflit de 36 années s'est-il achevé, Hugues Dossy ?
Alors, ce qui permet la fin des guerres de religion, c'est d'abord l'épuisement. Hein, l'épuisement des forces. La monarchie n'en peut plus, hein. Ça coûte extrêmement cher, les guerres sont interminables, à chaque fois qu'on a un édit de pacification, il est brisé quelques années après, la guerre reprend, les Huguenots sont trop puissants, on ne peut pas les éliminer. Alors il y a bien la Ligue catholique qui se crée en 1585 et qui veut éradiquer le parti Huguenot, mais elle aussi finit par se casser les dents sur cette entité absolument inébranlable, d'autant plus que le chef du parti Huguenot, le protecteur des églises réformées de France, Henri de Navarre, monte sur le trône en 1589, le 2 août 1589, il succède à Henri III, et devient donc Henri IV, roi de France. Alors il règne d'abord en tant que roi protestant pendant 4 ans, puis en 1593, il se convertit au catholicisme, et à partir de là, peu à peu, il réussit à désamorcer l'hostilité des catholiques intransigeants à son endroit, et un peu par un épuisement mutuel, un peu parce que Henri IV réussit à imposer son autorité, peu à peu, il conduit la France vers une pacification civile, militaire et religieuse.
L'édit de Nantes achève les guerres de religion ?
Alors, l'édit de Nantes achève cette première phase de guerre de religion, oui, puisque l'édit de Nantes met un terme à ces 8 guerres, mais pour autant, on ne peut pas dire que c'en est totalement fini des affrontements religieux en France, puisque après quelques années d'apaisement sous le règne d'Henri IV, la deuxième partie du règne d'Henri IV, après l'assassinat d'Henri IV, sous le règne de Louis XIII, peu à peu l'agitation reprend, l'hostilité mutuelle entre catholiques intransigeants et huguenots renaît, et notamment avec le ministériat de Richelieu, on assiste à une reprise des guerres civiles avec le duc de Rohan qui incarne la dureté du parti huguenot. Et à la suite de quelques guerres, La Rochelle tombe en 1628, à la suite d'un siège mis sur ordre de Louis XIII et de Richelieu. Et en 1629, par la paix d'Alès puis l'édit de Nîmes, la dimension politique et militaire de la réforme protestante est complètement anéantie. C'est la fin du parti huguenot et c'est donc aussi la fin des guerres de religion.
Eh bien, merci beaucoup, Hugues Dossy, pour ce panorama, ce cours d'histoire consacré aux guerres de religion. Il y a un nom dont nous n'avons pas parlé, c'est la Saint-Barthélemy. Je vous propose, chers auditeurs, de nous retrouver très bientôt pour évoquer cette question dans un nouveau cours d'histoire. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.